les jardinières.
Les jardinières du samedi matin, c'est reparti pour un tour. Soyez les bienvenus. Et belle surprise ce matin, c'est la venue de Brian. Bonjour Brian.
Et bonjour Mylène.
On accueille également notre invité du jour, Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuve. Merci d'être avec nous ce matin.
Et dans un instant, on va parler d'un sujet qui divise parfois les voisins, la pelouse. Gazon impeccable façon terrain de foot, prairie plus naturelle, tapis vert ultra soigné ou coin un peu plus libre. On en discute dans l'heure qui suit.
Les jardinières.
Bon Jean-Pierre, avant de parler de pelouse, on s'arrête un moment sur les choses à faire au jardin ces prochains jours. Quels sont les travaux à effectuer impérativement maintenant pour ne pas louper le coche ?
Oui, bien, ce début mars, effectivement, il reste encore quelques tâches à réaliser en urgence. Pour ceux qui ne les auraient pas réalisées, ça veut dire tout ce qui est des plantations d'arbres, arbustes, rosiers, fruitiers, des plantes en racines nues, ça c'est impératif de les mettre rapidement dans le terrain, de les implanter. On a aussi passablement de travaux en cours sur les plates-bandes qu'on peut réaliser. On a les premiers binages, on a le nettoyage des surfaces où on a encore peut-être un peu de la mauvaise herbe qui peut arriver ou qui était déjà là. Et puis des déchets végétaux hivernaux comme les feuilles, les anciennes pousses, des vivaces et autres. On peut aussi bien sûr diviser les plantes vivaces encore à cette période, multiplier ces massifs pour densifier les éléments. Après, sinon, ceux qui ont des agaves, c'est le grand moment de les sortir et puis de les mettre exposés au soleil avec beaucoup d'humidité au démarrage parce que à cette période, le soleil n'est pas très méchant puis on n'aura pas de risque de dégâts de soleil sur le feuillage, on n'aura pas de brûlure. Et puis après, dans les tailles, bien sûr, on a encore les dernières tailles. Les tailles des rosiers sont à effectuer, bien sûr, les apports d'engrais. Assez massif. Les tailles des fruitiers, on arrive gentiment sur la fin. On aura bientôt les premiers produits fongiques, cuivre, surtout à poser sur les fruitiers pour éviter les maladies printanières qui arriveront. Ça regorge passablement de travail. Voilà, il y a pas mal à faire.
Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Pierre, jusqu'à 8h. Dans la deuxième partie de l'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous appeler au 0900 70 20 20 ou nous envoyer un SMS au 939 en tapant « jardin », un espace, votre question et votre nom. Ou alors vous passez par le formulaire sur notre site internet avec toujours la possibilité de joindre une photo.
Juste après la musique, on entre dans le vif du sujet, les gazons, comment s'y prendre pour avoir des beaux et des résistants. Restez avec nous.
7h. 8h, les jardinières.
On est ensemble jusqu'à 8h chez les jardinières en compagnie de Jean-Pierre Ribaud. On s'attaque à un incontournable ce matin, la pelouse. Alors Jean-Pierre, commençons par le commencement. Quand on arrive en jardinerie, on se retrouve face à une multitude de mélanges, gazon sport, spécial ombre, regarnissage, fleuri. Alors concrètement, quelles sont les grandes familles de pelouse ?
Alors je dirais qu'il y en a en tout cas quatre qu'il faut retenir. Il y a effectivement cette pelouse de regarnissement. C'est des semences qui seront adaptées à un démarrage très rapide au printemps, qui racinent très facilement, qui vont densifier votre surface qui est éclaircie et puis qui est facile à la mise en place. Après, vous avez les pelouses qui sont vraiment pour les surfaces arides, sèches. Là, ce sera votre surface, votre exposition qui va un peu sélectionner ce phénomène. Si vous avez une terre qui est très pauvre, exposée plein sud, on va chercher à mettre des pelouses super résistantes au sec. Après, vous avez les pelouses fleuries, celles qui sont envahies de fleurs qui s'épanouissent durant la saison. Et puis sinon, vous avez le gazon standard, le traditionnel, que l'on peut mettre autant dans les endroits humides, exposés, où les enfants vont jouer, ou même les espaces de sport.
Si on a des enfants, un chien, beaucoup de passages, est-ce qu'on doit renoncer à un certain type de gazon ?
Non, pas du tout. Ce qui va vraiment définir les semences que vous allez mettre en place sur vos surfaces, c'est plutôt l'exposition et le sol. Pour ce qui est de l'utilisation, on n'aura pas de contraintes particulières. Bien sûr qu'on n'aime pas quand il y a trop de fleurs dans une pelouse et puis qu'on a des enfants et puis qu'ils se baladent pieds nus. Mais pour le reste, à l'utilisation, que ce soit l'un ou l'autre, on n'aura pas ces contraintes données par rapport à une utilisation quelconque.
Et puis, est-ce que le climat joue un rôle? On peut mettre un gazon fleuri, par exemple, si on habite dans les hauteurs, chaud de fond ou les franches montagnes, ça passe aussi?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui va vraiment définir ce choix de semences, ce sera la qualité de la terre que vous avez. Alors, évidemment, souvent, vous héritez d'une surface sur laquelle la terre a été mise en place. Pour ceux qui construisent, faites attention à avoir vraiment un substrat de qualité en surface pour ne pas être péjoré derrière par rapport à une pelouse que vous mettrez en place.
Et puis maintenant qu'on a en main notre mélange, il faut préparer le terrain. Quelles sont les étapes indispensables si on a peut-être un peu tendance à y aller à la va-vite?
Alors si vous avez une surface qui est dégarnie, qui vient d'être mise en place au niveau des terres, on va passer un coup de motoculteur, on va ramasser tous les gros déchets, les cailloux, les branchages, les racines qui pourraient s'y trouver. On va faire une planie fine avec un râteau ou un larron, c'est égal. Et puis, une fois ce travail effectué, on va mettre en place un engrais de pré-semis. On aime bien le mettre avant le semis parce que lors des travaux futurs, cet engrais va être enfoui dans le terrain. On va étendre uniformément la semence. Ensuite, on va donner un coup de larron, de crochet, ou dans le commerce, on peut même louer des petits hérissons. C'est un rouleau à pic qui va permettre d'enfouir la semence à 2-3 cm. Faut pas la mettre trop bas non plus parce que on va la perdre. Et puis, en surface, on n'aime pas parce qu'elle va pas démarrer très facilement. Donc, on fait un petit enfouissement de cette semence. On va donner évidemment un coup de rouleau. Le fait de rouler une surface qu'on aura semée va provoquer l'humidité par capillarité. Elle va remonter à la semence, ça va tenir l'humidité à cette semence qui va faciliter la germination. Et puis malgré tout, même à cette période, on va faire un arrosage assidu les 4-5 premiers jours. Et puis là, vous êtes garanti d'avoir une réussite de semence, de semis qui sera optimum. Et puis l'avantage aussi de faire des semis à cette période, vous coupez passablement l'arrivée des annuelles qui peut être envahissante si vous faites un semis trop tardif.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin chez les jardinières, on parle de gazon, on va parler de son entretien, mais avant de l'entretenir, il faut le semer. Alors Jean-Pierre, c'est quand le bon moment pour semer ce gazon, cette pelouse chez nous?
Alors on arrive dans cette super période où on peut mettre en place les semis. Ce qui nous bloque un peu maintenant, c'est encore le terrain qui est des fois très gras, très humide, qui n'est encore pas trop séché par rapport à la sortie de l'hiver. Une fois qu'on pourra travailler les terres avec un motoculteur, effectivement, ce sera la super période parce que on sera dans une période où l'humidité sera quand même constante, on aura quand même encore des nuits fraîches. Et puis, une fois mis en place ce semis avec un arrosage, il va jamais souffrir des périodes caniculaires que l'on peut vivre juin, juillet, août. Donc ça peut que garantir une super reprise. Et puis la super période, alors je dirais mi-mars, fin avril, c'est le top. Quand même qu'il faut quand même arroser, parce qu'on peut voir aussi certaines années que le mois d'avril est très sec et puis sans apport d'eau sur le semis, il va être ralenti au démarrage et puis c'est presque dommage. On a meilleur temps de donner un bon coup d'eau au semis, même en avril si on a une période sèche, pour garantir un épanouissement de la pelouse et puis que ça ferme les terres pour attaquer cette période caniculaire derrière. Un semis qui est dense va garder le frais au sol et puis souffrir à beaucoup moins qu'un semis qui sera espacé, étiolé, où le soleil va taper sur le sol et puis chauffer ce substrat.
Mais alors, si on a déjà une pelouse fatiguée, clairsemée, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, pour ceux qui sont sortis d'hiver avec une pelouse qui est éclaircie, c'est pareil, c'est la super période pour faire un sursemis. On va un peu gratter le terrain pour essayer d'enfouir le minimum cette semence. On va travailler avec une semence de pré-semis, cette semence qui se racine facilement, qui démarre très facilement. Et puis, on va volontiers couvrir ce semis soit avec un substrat de pré-semis qu'on trouve dans le commerce, ou bien de la paillette hachée. Ça va faire aussi ombrage sur le semis, l'étendre uniformément une petite couche par-dessus le sursemis va favoriser cette reprise. Alors évidemment, avec un sursemis, il faudra aussi mettre de l'engrais de pré-semis parce qu'il faut le buster tout de suite au démarrage pour qu'il colonise les espaces et puis qu'on n'ait pas des indésirables, les herbes qu'on ne souhaite pas voir venir. Et puis bien sûr, un arrosage.
Et Jean-Pierre, quand on a fait tout ça, engrais, pré-semis, il y a le printemps qui s'installe. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour que notre pelouse soit belle? On peut tondre?
Alors, les surfaces qui n'ont pas été tendues l'automne passé et puis qu'on avait une densité encore assez élevée, ça vaut la peine de les tendre maintenant. On voit de temps en temps des pelouses qui sont de 8-10 cm, qui ont couché durant l'hiver, que le gazon il est venu jaunâtre. Alors effectivement, une tonte, on peut la faire assez basse pour justement ramasser tous ces déchets végétaux, nettoyer cette surface et puis peut-être se rendre compte que oui, il faudra faire un sursemis ou non, on peut passer simplement avec un engrais printanier. Mais oui, on peut commencer les premières tontes, surtout sur les surfaces qui sont trop hautes. Pour les surfaces qui étaient standards, on peut encore attendre, je dirais, 15 jours pour les premières tontes. Il n'y a encore pas d'urgence. C'est seulement que si on a vraiment trop de matériel végétal à nettoyer, ça vaut la peine de passer maintenant pour garantir une super levée après.
Et puis alors, la scarification fait toujours un peu peur, autant le nom que l'activité. À quoi elle sert exactement ?
Ben, la scarification, c'est une machine qu'on va passer avec des couteaux qui va venir frotter le sol, qui va effiler le feutrage que vous avez en sous-sol de la pelouse. Ça va permettre d'éradiquer tous ces problèmes-là. Ça va vous enlever une bonne partie des mousses. Alors, pour celui qui va faire une scarification, faut évidemment derrière rebuster ce gazon avec un engrais pour que les espaces que vous avez éclaircis avec ce passage de machine, eh bien, il faut absolument le redensifier avec une pelouse qui devrait taler. Alors, du moment que vous mettez l'engrais, la pelouse qui est en place, elle aurait été un petit peu maltraitée avec le passage de cette machine. Et puis le fait d'avoir été un peu déstabilisé avec un apport d'engrais printanier, eh bien évidemment, vous avez une pelouse qui va se régénérer rapidement. Et puis pour les espaces où il y a trop de mousse, eh bien on revient sur le sursemis qui est indispensable. Faut savoir que la mousse, vous la trouvez vraiment dans les espaces où il y a trop d'humidité ou dans un substrat qui n'est pas favorable. On arrive à l'éradiquer avec vraiment de l'apport d'engrais, scarification et sursemis.
Les jardinières.
Nous sommes avec vous jusqu'à 8h en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Ce matin, cap sur l'entretien de nos pelouses. Jean-Pierre, on aimerait encore éclaircir une ou deux choses à propos de nos gazons. En attendant, vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà nous faire parvenir vos questions.
Et oui, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 et poser votre question directement à Jean-Pierre. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939 en tapant jardin au début du message ou encore nous envoyer vos questions et photos via le formulaire sur notre site.
Alors Jean-Pierre, on a parlé sursemis, engrais, scarification, tonte. On va parler un peu des maladies ou des ravageurs qui peuvent apparaître sur le gazon après l'hiver. Comment on les reconnaît et puis surtout qu'est-ce qu'il faut faire ?
Période, on peut avoir des découvertes quand la neige fond, certainement au Franche-Montagne, puisque chez nous dans le Bas, c'est de la fonte du semis. C'est un champignon qui se développe sous neige sur des jeunes pelouses en général qui n'ont pas été bien entretenues durant l'automne passé. Et puis ça vous fait des auréoles grandes comme une assiette où le gazon il est venu tout jaune, il périt et puis le reste de la pelouse eh bien il est moucheté. Alors dans ces cas-là, on peut plus traiter maintenant évidemment parce que le champignon il a déjà fait ses dégâts et puis même à l'automne on ne se prémunit pas d'une intervention phyto par rapport à ça parce que c'est pas fidèle sur tous les semis, ça peut arriver exceptionnellement mais ça peut arriver. Alors quand on découvre ça à la fonte de l'année au printemps, eh bien, on tond évidemment et puis avec un apport d'engrais énergique et puis on arrive à faire redémarrer ces surfaces sans problème. Et puis pour ce qui est des parasites, eh bien, bien sûr, on a la taupe, on a le mulot qui peut arriver hein, durant l'hiver et puis qui fait ses galeries, puis qui fait pas mal de fracas dans la pelouse. Là, ben, on le voit très vite et puis il ne faut pas le laisser s'épanouir, il faut vraiment intervenir rapidement. Là, on a plusieurs modes de lutte. On a le piégeage, bien sûr. On a aussi des produits dans le commerce qu'on trouve. C'est des boulettes que l'on met dans les galeries qui dégagent un gaz nocif et puis qui fait périr le parasite parce que si vous le laissez s'épanouir, il va vous faire vraiment un champ de bataille. Il va encore venir attaquer toutes les plantes que vous aurez dans les massifs avoisinants, puis c'est pas le top. Et puis pour ce qui est du fameux ver blanc que l'on connaît, qui a des fois des attaques très conséquentes en été, eh bien on peut pas tellement se prémunir maintenant parce que c'est souvent très local ces attaques. Il y a des pelouses qui peuvent être très affectées sur une commune, sur une rue même, et puis la rue d'à côté, on n'aura pas ces phénomènes. Pourquoi ? Je sais pas. Et puis c'est lors de l'apparition des dégâts que l'on peut intervenir avec un phyto. Ça veut dire juin, juillet, c'est quand il fait très chaud, parce que bien sûr le ver blanc, il va gentiment sortir d'hibernation maintenant, il va commencer son travail de manger les racines de la pelouse pour s'épanouir, et puis à un moment donné, avec une telle densité quand on en a, eh bien la pelouse elle périt. À ce moment-là, on a des produits phytosanitaires qui sont avec des nématodes que l'on peut arroser les pelouses. Un nématode, c'est aussi un parasite naturel du ver blanc, et puis il va venir attaquer ce ver blanc, le faire périr. Mais en tous les cas, le dégât que vous aurez eu avec le ver blanc, il sera là. Et puis, une fois que vous aurez lutté, intervenir avec un sursemis, une scarification. Au pire, si vraiment le dégât il est trop conséquent, il faudra renouveler la pelouse avec un motoculteur pour aplanir ses surfaces, parce qu'il y a des fois les dégâts sont très très conséquents.
Et puis le gel hivernal peut aussi avoir abîmé le gazon, racines, sol compacté, zone plus jaune. Quelles interventions recommandez-vous au printemps pour que la pelouse se rétablisse bien ?
Oui, alors c'est un dégât général hivernal. Là, si on parle de dégâts de gel, de neige, d'humidité, eh bien au printemps, avec une tonte rapide pour éradiquer, éliminer tous ces déchets végétaux qui sont au sol, qu'il ne faut pas laisser, parce que sinon, eh bien ça va densifier la couverture, et puis vous aurez un semis qui va pas s'épanouir. Et puis après, eh bien un bon engrais, c'est évident, et puis vous arrivez à récupérer votre pelouse sans problème. Si vous avez un sol qui est très très compact et puis que la semence ne démarre pas, eh bien on a dit tout à l'heure, avec un sursemis puis une couverture de mulch, soit un simple compost que vous trouvez très tamisé, soit un mulchi de paille finement haché ou un substrat de couverture, vous êtes obligé de le couvrir pour qu'il va redémarrer ce semis, ce sursemis, mais en tous les cas vous arrivez à le récupérer.
Les jardinières.
Tous les samedis matins, on parle jardin dans votre radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Et c'est le moment pour vous de nous appeler, par exemple, au 0900 70 20 20, pour poser vos questions directement à Jean-Pierre et la chance de parler en direct avec nous. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site pour nous faire parvenir votre question. Ou alors un simple SMS, vous tapez « jardin », un espace suivi de votre question, votre nom. Et vous nous envoyez ce message au 939. Brian, on a des questions pelouse.
Exactement, une question bien dans le thème. Bonjour, ma pelouse est pleine de trous après l'hiver. Est-ce que je dois ressemer? Et si oui, quand dois-je le faire?
Alors bien sûr, on revient sur ce phénomène de sursemis. Il est aussi vrai que de temps en temps, on a des trous dans la pelouse, on n'en a pas vraiment parlé. C'est surtout au printemps, on a des hérissons qui viennent se donner à cœur joie de faire des petits trous dans la pelouse pour manger les vers qui s'y trouvent. Alors, selon la grandeur des trous, c'est pas un problème. Quand le trou il est un peu conséquent, ça vaut la peine de faire un sursemis avec de la terre végétale plutôt qu'un substrat de sursemis. Le substrat de sursemis, en fait, c'est quelque chose comme du terreau qui va se décomposer dans le temps. Et puis, une fois qu'il se sera décomposé, on va retrouver ces trous dans la pelouse. Par contre, si vous avez la possibilité de prendre 2-3 bidons de terre arable de chez nous, bien, bien affinés, eh bien, ce sera plus judicieux de reboucher ces trous avec cette terre. Ça garantit la pérennité de la planie derrière. Et puis, un sursemis, vous arrivez à récupérer toutes ces lacunes que vous pourriez avoir avec les trous de sortie d'hiver, hérissons et autres, et même les souris.
Merci Jean-Pierre. Une autre personne se demande si on peut mélanger deux types de semences différentes pour adapter une pelouse existante. C'est une bonne idée ou ça donnera un résultat un peu bizarre ?
Alors, c'est une bonne idée si vous restez un fond de sac de semences de l'année d'avant et puis que vous avez racheté un sac et puis vous voulez faire un sursemis. Là, ça vaut la peine de mélanger les deux substrats. Vous aurez quelque chose d'homogène. Par contre, si vous décidez de faire un nouveau semis et puis de vous dire je vais mettre du moitié gazon familial et puis moitié gazon fleuri, je pense que c'est pas la bonne idée parce que de un, le gazon familial, pour la mise en place, on va vraiment mettre de l'engrais pour faire une levée rapide, pour justement lutter contre les annuelles qui devraient arriver. Par contre, dans le gazon fleuri, là, on va éviter de mettre trop d'engrais, parce que l'engrais va favoriser la germination de la graminée et puis ce sera au détriment des fleurs que vous aimeriez qui s'épanouissent. Et puis encore peut-être juste un détail au niveau des gazons fleuris, il faut compter une année et demie, deux ans pour une super mise en place de cette pelouse. Elle est beaucoup plus lente qu'un gazon traditionnel parce que c'est souvent des vivaces qu'on implante dans le gazon fleuri. La vivace, il faut en tout cas un cycle d'une année pour être épanouie, se mettre à fleur et redémarrer. Et puis la densification de semis du gazon fleuri sera nettement moindre au début que le gazon traditionnel.
Puis on a encore une autre question pour vous, Jean-Pierre. Ma pelouse est envahie de trèfles. Certains me disent que c'est bien pour la biodiversité, d'autres que ça étouffe le gazon. Mais qui a raison ?
Le trèfle, il arrive volontiers dans une terre qui est déjà très riche, dans laquelle il arrive à s'épanouir. Et puis, lutter contre est un peu compliqué. On arrive avec des phytos, mais c'est aussi toujours délicat d'intervenir avec des phytos. On n'aime pas, on aime peu. Il faut aussi comprendre que le trèfle, lorsqu'il s'épanouit, il a des nodosités sur racines. C'est des bactéries qui vivent en symbiose avec le trèfle, avec toutes les légumineuses. Et puis le fait d'être dans le terrain, ces nodosités, quand elles périssent, elles redégagent de l'azote naturel dans le sol, ce qui provoque une multiplication encore du trèfle. Alors la meilleure lutte, je dirais, c'est une bonne scarification croisée pour l'éradiquer en bonne partie. Il est garanti que derrière, si vous faites un sursemis, eh bien, les espaces où ce trèfle était, avec l'azote naturel qui se trouve par rapport à ce phénomène des légumineuses, vous aurez une pelouse qui va s'épanouir rapidement.
Alors, il y a le trèfle, Jean-Pierre, mais il y a aussi l'achillée qu'on voit beaucoup dans les pelouses. C'est le même traitement que pour le trèfle, pour les faire disparaître ?
Oui, l'achillée, on a des produits phytosanitaires foliaires qu'on arrive à utiliser pour l'éradiquer. Encore une fois, hein, je pense qu'on va sur le devant avec un minimum d'utilisation de phyto, mais quand on en est vraiment envahi, effectivement, un phytosanitaire s'impose pour éradiquer le problème. C'est pas sûr qu'on va parvenir derrière. Pour éviter qu'on ait de la mauvaise herbe, de l'achillée, du trèfle qui reviennent, il faut entretenir sa couverture de pelouse dense avec un apport d'engrais régulier. Le fait que la pelouse soit très dense, eh bien, ça va éviter la germination des indésirables dans les espaces de terre. Et puis, naturellement, vous luttez contre ces phénomènes. Il faut aussi juste relever que si vous avez sur un sursemis, par exemple, du chénopode, des gaillets, des mourons, eh bien, ça, c'est des plantes annuelles. Et puis, à la première tonte, elles ne vont pas du tout supporter. Et puis, elles vont disparaître d'elles-mêmes, au même titre que le rumex, même que c'est une vivace qui est très robuste. Eh bien, dans des pelouses, on arrive à le supprimer simplement par la tonte. Il n'y a pas besoin d'intervenir avec des produits phytosanitaires pour éradiquer ces phénomènes-là.
Les jardinières.
Ce matin, chez Les Jardinières, on a pris soin de nos pelouses avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Tous les conseils de Jean-Pierre seront à retrouver en podcast dans le courant de la matinée sur notre site.
Et avant de vous laisser profiter de votre week-end, Jean-Pierre, une dernière question. Si on quitte la pelouse un instant au potager et au jardin en ce moment, quelle est, selon vous, la priorité en fin d'hiver qu'on oublie trop souvent ?
Alors pour ce qui est du potager, on est encore un petit peu calme parce que les cinglasses, c'est quand même que mi-mai. Donc on peut quand même encore faire des larronnages, des bêcher les carreaux, ça on peut nettoyer encore ce qui peut s'y trouver. On n'a pas parlé de petits fruits, mais c'est le grand moment de tailler tout ce qui est de framboisiers, petits fruits et autres. On peut mettre les mulchis, les paillis, c'est pas un souci. On peut difficilement faire les semis à cette période de forçage tels que tomates, courges, concombres, parce que si vous vous y prenez trop vite, en forçant ces semis dans des pots, dans un volume chaud chez vous, eh bien, quand vous les mettrez en place, elles seront beaucoup trop longues, étiolées, et puis vous aurez une reprise difficile. Donc, pour ceux qui sont intrépides, eh bien, attendez encore en tout cas 15 jours, 3 semaines pour faire ces semis de forçage, pour avoir des plants de qualité après pour la mise en place dans votre potager.
Donc la patience reste de mise. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce matin chez Les Jardinières. On rappelle que vous êtes paysagiste à Queuves. On vous souhaite un excellent week-end. Profitez du soleil.
Merci et bon week-end à tout le monde.
On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission des Jardinières. Nous serons en compagnie de Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes. Bonne journée Mylène.
Merci Brian, bonne journée. Puis on vous rappelle que bien sûr vous avez toute la semaine pour nous envoyer vos questions via le formulaire disponible sur notre site. Bon week-end et à la semaine prochaine samedi dès 7h pour une nouvelle émission des Jardinières. Ciao.
7h, 8h, les Jardinières.